Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 11 juin en direct de Washington. Au micro Morgane Diriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, la République centrafricaine saisit la Cour pénale internationale et demande l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis depuis le 1er août 2012.
Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar se donne 60 jours pour former un gouvernement de transition.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda devrait être élu président de l'Assemblée générale de l'ONU. Le vote a lieu aujourd'hui.
Au Mali, les épreuves du baccalauréat ont commencé cette semaine, mais à Bamako, on se plaint de la fuite des sujets.
Je sais tout simplement qu'il y a eu fuite et puis c'est tout.
Et ici aux États-Unis, une autre fusillade s'est produite dans un lycée. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
La République centrafricaine a saisi la Cour pénale internationale. Bangui demande à la justice internationale d'ouvrir une enquête sur les crimes commis depuis le 1er août 2012. C'est la ministre de la Justice, Isabelle Godeuil, qui a annoncé en personne hier cette nouvelle initiative du gouvernement. Elle a rappelé que la procédure de la CPI avait déjà décidé le 7 février 2014 d'ouvrir sa propre enquête préliminaire sur les violations des droits de l'homme en RCA pour envisager de se saisir du cas de la Centrafrique. Selon Mme Godeuil, les victimes réclament justice et les individus qui ont choisi le crime comme mode d'affirmation de leurs revendications doivent faire face à la justice tôt ou tard.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef de la rébellion, Riek Machar, se donnent 60 jours pour former un gouvernement de transition. Chez Romain Dorsil.
C'est le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn qui a annoncé cette date butoir après une rencontre entre les deux frères ennemis dans le cadre de la médiation régionale de l'IGAD. Selon lui, les deux hommes se sont mis d'accord pour achever le processus de dialogue d'ici 60 jours et former le gouvernement de transition. Il a critiqué les deux parties pour n'avoir pas respecté l'accord de cessez-le-feu. En effet, le 9 mai à Addis Abeba, lors de leur première rencontre depuis le début des affrontements, Salva Kiir et Riek Machar avaient signé un accord qui prévoyait la cessation des hostilités, mais n'a jamais été respecté. Tout comme le précédent cessez-le-feu, signé le 23 janvier, cet accord est resté lettre morte. Le conflit, qui a éclaté le 15 décembre entre le président et son ancien vice-président dans le plus jeune pays du continent, a déjà fait plusieurs milliers de morts et 1 300 000 déplacés.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda devrait être élu président de l'Assemblée générale de l'ONU. Le vote a lieu aujourd'hui. Sam Kutesa est pourtant un personnage controversé puisqu'il est accusé d'être impliqué dans des affaires de corruption. Il a également été le porte-parole international de la loi anti-homosexualité récemment adoptée en Ouganda.
Le Nigeria condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Les autorités doivent s'acquitter d'une amende de 50 000 euros en raison de la mort d'au moins une personne lors d'une expulsion d'habitants de bidonville. Violence qui s'était produite à Port Harcourt il y a 5 ans. 12 autres personnes avaient été blessées. L'armée nigériane n'avait aucune justification pour avoir ouvert le feu sur ces populations, a estimé la Cour. Le gouvernement du Nigeria a failli à son devoir de protéger et de respecter les droits des personnes pacifiques, a-t-elle ajouté.
Le président du Conseil des imams et des prédicateurs du Kenya a été abattu hier à Mombasa. Cheikh Mohamed Idriss, un imam modéré, avait été menacé par des jeunes musulmans radicaux. C'est le 4e chef religieux à être tué dans cette ville kenyane ces 2 dernières années. Les 3 autres étaient accusés d'avoir des liens avec les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
Des milliers d'enfants sont menacés par une épidémie de rougeole en Somalie. L'UNICEF et l'OMS appellent à une campagne de vaccination d'urgence. Et l'ONU a averti auparavant du risque de crise alimentaire dans ce pays en guerre depuis 2 décennies.
Le nombre de migrants arrivés par bateau en Italie depuis le début de l'année a passé la barre des 50 000. Le directeur général de l'OIM, William Lacey Swing, a appelé à prendre des mesures au plan international suite à l'arrivée ce week-end de plus de 5 470 migrants en Sicile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama appelle son pays à faire une introspection. Il réagissait ainsi à la fusillade qui s'est produite hier dans un lycée près de Portland, dans l'Oregon. Un homme armé a ouvert le feu, tuant un étudiant. Un enseignant a également été blessé. Il semble que l'assaillant se soit ensuite suicidé. Les fusillades de masse deviennent la norme, s'insurge le président américain. Barack Obama a rappelé que les États-Unis étaient le seul pays développé où une telle violence est tolérée, une situation qui le terrifie, dit-il.
Au plan international, l'administration Obama estime que les extrémistes islamistes sunnites ayant contrôlé hier Mossoul, la deuxième ville irakienne, constituent une menace régionale qui nécessite l'action d'un gouvernement irakien plus uni. Les précisions de Michel Joseph.
La montée en force en Syrie de l'État islamique d'Irak et du Levant a aidé ce groupe militant à s'emparer de Mossoul, a expliqué la porte-parole du Département d'État, Jen Psaki.
We've seen from the situation in Syria and the overflow of the impact of that.
Nous avons vu la situation en Syrie et son débordement avec un transfert de ces recrues, de munitions et d'armes sophistiquées pour combattre en Irak. Et cela est bien entendu un grand sujet de préoccupation pour nous. La perte du contrôle de la deuxième ville irakienne et de certaines parties de la province de Ninive traduit une sérieuse détérioration de la situation sécuritaire en Irak, a dit la porte-parole du département d'État. Selon Jen Psaki, l'État islamique d'Irak et du Levant a profité des dissensions entre sunnites, chiites et kurdes irakiens. L'administration Obama a notifié le Congrès d'un autre projet de vente d'armes à l'Irak d'un montant $1 milliard, y compris 200 véhicules Humvee, a indiqué Madame Psaki.
Le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko a ordonné l'ouverture de couloirs humanitaires d'évacuation pour permettre aux habitants de l'est du pays d'échapper au combat entre les séparatistes pro-russes et les soldats ukrainiens. Les précisions de Timothée Denangmaï.
Les détails relatifs à ces voies d'évacuation n'étaient pas clairs hier, mais la présidence ukrainienne a souligné qu'il s'agit d'éviter de nouvelles victimes dans les zones de conflit. Le président Poroshenko a en outre ordonné au gouvernement de venir en aide aux déplacés en leur fournissant notamment une assistance médicale dans cette partie essentiellement russophone de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe s'en est félicité. « C'est une étape dans la bonne direction », a déclaré Sergueï Lavrov hier. S'exprimant hier à Kiev, la secrétaire d'État adjointe américaine, Victoria Nuland, a promis de son côté l'appui des États-Unis au développement économique ainsi qu'aux efforts de stabilisation de l'Est de l'Ukraine. Autre développement en rapport avec cette crise ukrainienne, le commissaire européen à l'énergie, Günther Oettinger, qui assure la médiation entre Kiev et Moscou dans leurs négociations sur le prix du gaz, a dit qu'un accord prendrait peut-être plusieurs jours.
Chasse à l'homme en Corée du Sud, des milliers de policiers ont pris d'assaut un bâtiment religieux aujourd'hui. Ils tentent de retrouver le propriétaire du ferry qui a fait naufrage en avril dernier. Une catastrophe qui, souvenez-vous, avait fait plus de 300 morts. Cela fait presque un mois que les autorités sont à la recherche de cet homme d'affaires de 72 ans. Il est recherché pour détournement de fonds, négligence et évasion fiscale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. Au Mali, les épreuves du baccalauréat ont commencé hier avec un peu de retard dans la capitale. On compte plus de 120 000 candidats cette année. Les 252 centres d'examen sont répartis sur l'ensemble du territoire national, excepté Kidal. La situation reste volatile dans cette ville du Nord malien suite aux affrontements qui ont opposé rebelles Touareg aux forces maliennes. Autre source de controverse, la fuite des sujets. Le reportage de Kassim Traoré.
C'est à Nevers que les épreuves du baccalauréat session 2014 ont commencé dans certains centres. Ce retard est dû au changement d'épreuve à la dernière minute suite aux fuites de sujets.
Moi, c'est Eta, Mamadou Keita. Je suis le responsable du centre Mamadou Sarr. On a démarré avec un léger retard, un incident indépendant de notre volonté. C'est pratiquement dans tous les centres de Bamako. On a commencé avec un léger retard et présentement, tout se déroule normalement. On est en salle, il n'y a pas d'incident majeur. Tous les candidats ont répondu présent. tous les surveillants sont là.
Dans les centres que nous avons visités, cette affaire de fuite de sujet n'a pas perturbé les candidats.
Là, ça a été un peu abordant. On est venu pour faire la philosophie et non la sociologie. Bon, ils nous ont donné des sujets qui ont les rapports entre philo et sociologie. Donc, on n'était pas venu pour ça.
Je m'appelle Kales Mano. Je suis le candidat du baccalauréat de cette année. Je peux dire les épreuves, ça s'est bien passé. Parce que les sujets qu'on nous a donnés, vraiment, je me suis fait beaucoup de bruit dans ça. C'était facile, je peux dire ça, parce que les sujets qu'on nous a donnés, on a vu ça en classe.
Les candidats qui avaient des soucis avec le retard qu'a accusé le début des épreuves se sont tirés d'affaire.
Mon nom, c'est Aïcha Kanté. Je fais LLT. On vient de faire le littérature. Je crois que ça s'est bien passé. Bon, j'attends la réponse de mes efforts. Quoi. Si ça s'est bien passé, donc je crois que je dois l'avoir.
Gérald Tunene Kanté, du lycée Mamadou Sarr. Je fais la LL comme elle. Bon, les épreuves du matin, ça s'est très bien passé. Si ça continue comme ça, nous allons avoir et puis le bac de cette année sera facile. Inch'Allah, il y aura assez de passants.
Les responsables de certains centres d'examen de Bamako sont formels. Il y a eu des fuites de sujets à Bamako.
Famagan Keita, responsable du centre lycée Prosper Camara. Nous avons la série terminale sciences sociales avec 22 salles et 659 candidats. Il y a eu des problèmes au niveau national et c'est ce qui a fait que les épreuves ont commencé avec beaucoup de retard. Mais pour les raisons du retard, je ne peux pas donner de détails. Je sais tout simplement qu'il y a eu fuite et puis c'est tout.
Au ministère de l'Éducation nationale, on explique ces retards par le changement à la dernière minute des sujets, mais aussi la suspension du directeur du Centre national des examens et concours qui est accusé d'être à la base des fuites de sujets de l'examen du DF. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Guinée, l'opposition suspend ses activités à l'Assemblée nationale et menace de reprendre les manifestations de rue. Les partis d'opposition accusent le pouvoir de ne pas respecter les accords politiques du 3 juillet 2013 et de manquer de volonté à mettre en place un cadre de concertation politique. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Les leaders politiques de l'opposition guinéenne se sont réunis lundi au QG de l'UFDG de Sélou d'Alain Diallo. Quelques heures après, leur porte-parole annonce aux journalistes le constat que l'opposition fait de la situation politique en Guinée. Aboubakar Silla.
Le dialogue que nous avons tant réclamé ne parvient pas à s'organiser parce que le pouvoir refuse obstinément la mise en place d'un cadre de concertation qui aurait pu permettre de discuter des problèmes liés non seulement aux élections mais à la gouvernance politique, économique et sociale de ce pays. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est que les accords politiques du 3 juillet demeurent toujours non appliqués dans leur généralité. Certaines dispositions de ces accords sont purement et simplement violées.
Il faut des conditions de transparence pour les futures élections, se défend l'opposition guinéenne qui décide de bouder momentanément l'Assemblée nationale, mais pas seulement, elle menace de descendre dans les rues.
L'opposition républicaine a donc décidé de prendre les décisions suivantes. Premièrement, de suspendre jusqu'à nouvel ordre sa participation à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, de reprendre l'organisation de ces manifestations sur les places et sur les voies publiques.
Cette décision de l'opposition guinéenne est largement commentée par les Guinéens.
5 mois et se retire encore. Vraiment, c'est pas bon de tous les Guinéens.
Je trouve ça inadmissible parce qu'ils sont là-bas, c'est pas en tant qu'opposants, ils sont là-bas pour représenter le bas peuple. S'il y a un problème entre la mouvance et l'opposition, ils doivent expliquer ça entre eux là-bas.
Se retirer aujourd'hui de l'Assemblée, c'est permettre à la mouvance présidentielle de faire passer de force certaines lois qui peuvent ne pas être en faveur de la nation, qu'ils vont regretter amèrement.
L'opposition guinéenne décide donc de quitter momentanément l'Assemblée nationale et le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, se dit surpris que cela arrive au moment où les députés s'apprêtent à ratifier le cadre d'investissement du projet Simandou avec Rio Tinto. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est attendu vendredi à la conférence de Londres sur le viol comme arme de guerre, conférence qui a débuté hier. La rencontre est placée sous l'égide des Nations Unies, étant présidée par l'actrice Angelina Jolie, qui est ambassadrice de bonne volonté du HCR, et le chef de la diplomatie britannique William Hague. Ce sommet réunit des délégations de plus d'une centaine de pays, représentants gouvernementaux, ONG, religieux, experts militaires et juridiques, associations humanitaires et membres de la société civile. Une cinquantaine de ministres des Affaires étrangères étaient également attendus, mais surtout des témoins de première ligne. Parmi eux, la Burundaise Emime Ndio Kubwayo, directrice pour le Burundi de l'ONG ActionAid. On l'écoute.
De cette rencontre, on s'attend que Londres et les dirigeants du monde entier prennent la chose au sérieux et que ce sommet ne soit pas juste un sommet comme les autres. Et à la fin, qu'on ait des actions concrètes qui fassent qu'il y ait fin aux violences en termes d'instruments juridiques, en termes de protection, de prévention, mais aussi en termes de promouvoir des fonds nécessaires pour la réparation et la réintégration des victimes.
On parle beaucoup de mettre en place des critères juridiques, des conventions visant à protéger les droits des femmes et des fillettes contre la violence sexuelle. Mais en même temps, en l'absence de volonté politique, est-ce que ce cadre juridique est suffisant?
Le cadre juridique, c'est un préalable. Ça démontre la volonté politique, mais ça ne suffit pas. C'est juste un outil et qui doit être suivi par une volonté politique de la mise en œuvre de cet arsenal juridique, mais aussi des programmes concrets qui se réalisent effectivement dans des engagements concrets pour éradiquer ce fléau.
Et pour vous, personnellement, que signifie cette conférence?
Pour moi, le message que je veux donner à tout le monde qui nous écoute, que ce soit le gouvernement du Burundi, les pères, les fils, c'est que les violences basées sur le genre, ce sont des crimes. C'est un crime de société qui doit être éradiqué, puni, et des mécanismes doivent être mis en place pour éradiquer cela à tous les niveaux. Ce n'est pas une guerre entre femmes et hommes, c'est un problème de société et tout le monde doit s'y mettre pour éradiquer ce fléau dans nos sociétés.
Voilà, c'était la Burundaise Emime Ndio Kubwayo, directrice pour le Burundi de l'ONG ActionAid.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la Coupe du Monde au Brésil, entre ferveur et appréhension. Vivez le coup d'envoi en direct de Sao Paulo, sans oublier les questions brûlantes affectant le football planétaire. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Navi Pillay, haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, a fait son discours d'adieu à l'agence onusienne qu'elle avait dirigée pendant 7 ans. Elle reproche à la communauté internationale son indifférence face aux atrocités commises dans le monde. Dans cet ultime discours, elle a déclaré que la politique prend souvent le pas sur les droits de l'homme. Issa Napon.
C'est le 1er septembre que Navi Pillay va quitter sa fonction à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Dans son discours devant les 47 membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, elle dresse un tableau sombre.
Regrettably, the international community remains unable to consistently react strongly and quickly.
Avec regret, la communauté internationale reste incapable de réagir conséquemment, avec force et rapidité, face aux crises, incluant des graves violations des droits de l'homme. Navi Pillay s'était rendu au Sud-Soudan en avril, une semaine après des massacres dans ce plus jeune pays du continent noir. Elle n'a pas mâché ses mots sur les deux leaders sud-soudanais qui sont restés comme indifférents à la souffrance des populations civiles. Elle a aussi exprimé son indignation face aux violences intercommunautaires en République centrafricaine. Madame Pillay a rappelé la tragédie du peuple syrien, les bombardements, l'étendue des pertes en vies humaines, les énormes dégâts matériels dans des villes comme Alep devraient, selon elle, indigner la conscience humaine. Elle a déploré l'obstination du gouvernement syrien et quelques groupes de l'opposition a refusé de rechercher une solution pacifique pour mettre fin à cette guerre. Des puissances extérieures continuent de souffler sur le feu par la fourniture d'armes, de matériel de guerre et des combattants étrangers. C'est choquant de voir comment ces crimes sont devenus naturels et se passent dans une impunité totale. Je suis déçu que le Conseil de sécurité, avec 13 voix pour et 2 contre, soit incapable de faire assumer la responsabilité pour ce genre de crime. La Russie et la Chine ont toujours opposé leur veto au projet de résolution visant des responsables syriens soupçonnés de crimes de guerre. Nevi Pillay a souligné de manière poignante l'enlèvement des jeunes lycéennes par Boko Haram au Nigeria et le meurtre prétendu pour l'honneur d'une femme enceinte de 23 ans au Pakistan. Une manière de dire à son successeur, le Jordanien Zaïd Al-Hussein, qu'il aura du pain sur la planche.
Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Place au sport avec Bagay Sikoura.
Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de la Coupe du Monde. On est à 24 heures de l'ouverture de l'événement mondial. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
Vous êtes à São Paulo et je crois qu'il y a du nouveau concernant la grève.
Eh oui, puisque les employés du métro ont décidé de suspendre la grève. C'est un gros ouf de soulagement évidemment pour le poumon économique brésilien, évidemment São Paulo. Alors, il faut encore attendre, hein, puisque ce mercredi, il va y avoir une réunion très importante, mercredi après-midi, entre le gouverneur et les représentants syndicaux, pour savoir si la grève est définitivement arrêtée ou si les syndicalistes vont pouvoir reprendre ce mouvement. Mais ici, c'est vraiment le soulagement, et j'ai moi-même pris le métro aujourd'hui, et tout le monde a repris confiance et pense que vraiment, tout va très très bien se passer pour ce match d'ouverture.
Qu'en est-il côté sportif ?
Écoutez, Bagassi, ce mardi, j'ai pu me rendre au stade Corinthians à Itaquera. On peut vous dire qu'on met encore les dernières mains à la pâte. Hein. On est loin d'être prêt. Il y a encore notamment des échafaudages. Il y a beaucoup de peinture à faire notamment. Les Brésiliens sont confiants, mais encore une fois, il y a encore beaucoup de travail et je pense qu'on va donner cela jusqu'à la dernière minute.
Merci à Nicolas. C'était Nicolas Pino, notre envoyé spécial au Brésil. Et à quelques 3 jours de l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire au Mondial 2014, les éléphants s'apprêtent à devoir se passer de Yaya Touré, le joueur de Manchester City. Élément clé de la sélection ivoirienne, se remet difficilement d'un étirement aux ischio-jambières contracté en fin de saison dans un match du championnat d'Angleterre. Yaya Touré demeure donc incertain pour la rencontre contre le Japon ce samedi à Recife dans le groupe C. Lundi, lors de leur dernier match amical, les Black Stars du Ghana ont battu la Corée 4-0. Et pour savoir davantage sur les chances des équipes africaines cette année, j'ai joint au Brésil Claude Leroy, il est sélectionneur du Congo.
Paradoxalement, je pense que cette année, les équipes francophones restent très solides. Je crois en Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je sais que l'Algérie de Vahid Ailosic sera une équipe très très difficile à manœuvrer. J'attends de voir du côté du Nigeria, même si ce sont les champions d'Afrique, mais beaucoup vont découvrir cette compétition. Et puis le Ghana, j'espère que le Ghana, parce que j'adore cette équipe que j'ai dirigée, n'a pas laissé passer sa chance en 2010, puisque les joueurs cadres, à part André Ayew et Jordan Ayew, mais les joueurs cadres comme Afamo Adjian, Souleymane Tari et Michael Essien sont pas en fin de carrière, mais pas loin. Et je pense qu'ils étaient au maximum de leur forme et de leur qualité il y a 4 ans, il y a 8 ans, et que le temps est peut-être un peu passé pour eux. Ils sont très cohérents, les joueurs camerounais. Ils voulaient que, pour une fois, arrêter de demander toujours au gouvernement, mais que ce soit avec l'argent de la Coupe du Monde aussi. La fédération, que les primes soient distribuées. Bon, les choses sont régularisées depuis et je pense que ça a solidarisé l'équipe, le problème camerounais avant le départ de Yaoundé. Et on peut penser que cette équipe du Cameroun va être très, très difficile à jouer.
C'était donc Claude Leroy, sélectionneur du Congo. La FIFA a dévoilé la liste des 33 arbitres de champ du Mondial 2014. Parmi eux, 5 Africains. Noumandiez Désiré Doué de Côte d'Ivoire, Bakary Papa Gassama de la Gambie, Jamel Haïmoudi d'Algérie, Néant Alioum du Cameroun et Daniel Fraser Bennett d'Afrique du Sud. Mais c'est le Japonais Yuichi Nishimura qui va arbitrer le match d'ouverture entre le Brésil et la Croatie jeudi à São Paulo. Et voici maintenant le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué. Aujourd'hui, notre consultant football revient sur la génération dorée, l'équipe de Côte d'Ivoire.
We celebrate the best African football. No wahala, fair play, fair play.
Bonjour. Pour sa 3e participation successive,
La génération dorée des académiciens ivoiriens n'a plus droit à l'erreur. Elle trouve par contre une occasion de briller au niveau mondial en accrochant un succès conséquent lors de ce mondial brésilien. Ses énormes atouts restent les mêmes pour réaliser ce jackpot. Une défense hermétique et imprenable dans les airs permet de gérer les temps faibles de l'équipe pendant les périodes dangereuses de récupération qui coûtent souvent cher aux équipes africaines à ce niveau. Trois joueurs hors normes, Yaya Touré, Gervinho et Drogba, peuvent à tout moment faire basculer la rencontre quand le collectif est en panne. En effet, les Ivoiriens sont les seuls Africains constamment capables d'inquiéter les adversaires sur des coups de pied arrêtés, ainsi que les coups de pied de corner, des qualités indispensables pour débloquer les situations. Que dire donc d'une équipe qui ne se pose plus de problèmes d'homogénéité, d'équilibre et d'automatisme? Malheureusement, cette sélection qui apparaît toujours comme la plus grande chance africaine de médaille a aussi les mêmes défauts. Une certaine incapacité à changer de rythme, ce qui rend l'équipe fiable si elle est menée au score ou contrariée. En d'autres termes, un problème de mental. Par ailleurs, l'équipe est victime de son rang et à ce titre, elle doit faire le jeu. Elle est disséquée et prévisible à tout moment. Mais le tirage au sort qui a mis les éléphants dans une poule homogène et abordable où sa qualification devrait servir de déclic pour une campagne à la hauteur des espérances des Africains laisse beaucoup d'espoir. Aux éléphants de savoir enfin provoquer leur chance. À demain.
C'est tout pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde au micro Bagassi Koura. Merci de nous avoir suivis.
Samba. Allez, place à la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. Les célébrités africaines et internationales ont secoué le continent lors de la 4e édition de MTV Africa Music Award à KwaZulu-Natal le samedi dernier. La cérémonie officielle MTV Africa Music Award 2014 est une magnifique exaltation panafricaine de la culture. Le Nigérian Davido était parmi les grands gagnants. C'est normal quand on écoute Skelewu. For this dance you don't do shagara. Oh yeah, honey, you don't like a rat. To the yard, to the road, ayo ya, to the back.
Davido, qui a été récompensé à deux reprises en tant que meilleur artiste masculin et artiste de l'année.
Ah oui, Morgane, congrats ou félicitations à Davido et aux autres gagnants. Deux autres catégories ont été introduites dans cette édition. Le prix de la personnalité de l'année, qui a été remporté par l'actrice d'origine kenyane Lupita Nyong'o, et celui du MTV Base Leadership, remporté par l'entrepreneur tanzanien Ashish Thakkar.
Davido, Skelewu, merci Roger.
De rien Morgan. Nos salutations vont à Michel Kayembe à Mweneditu dans la République démocratique du Congo.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel. For this dance you don't do shakara. Oh yeah, honey, you don't like a rat. To the yard, to the road, ayo ya, to the back. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Morgane Guiriac au micro. Je vous souhaite une excellente journée.